Voilà, ce matin, on va poursuivre notre périple avec Abraham. On croit ce matin que Abraham, celui qui est appelé le père de la foi, est un modèle pour chacun d'entre nous dans notre marche avec Dieu, pour la croissance de notre foi, pour aller plus loin. Et ce matin, on veut aborder un autre aspect qui est important pour notre vie de foi et notre marche avec Dieu. Après avoir vu comment notre foi, elle débutait par un appel, un choix de Dieu sur chacune de nos vies, après avoir vu comment la foi nous aidait à affronter les combats et les difficultés de la vie, en nous invitant à nous appuyer sur Dieu exclusivement, sans compter sur nos propres forces, ce matin on va voir un des autres principes de la foi, un des autres principes qui est vital pour que notre foi puisse grandir, pour vivre des expériences puissantes avec Dieu, et on va parler de la prière et de l'intercession. À travers du passage à l'étude, ce matin, on va voir comment la prière, elle a cette faculté de nous faire grandir dans la foi personnellement, mais tout en permettant de faire agir la faveur de Dieu sur les circonstances. Le contexte du passage que nous allons lire, Abraham est devant sa tente, et il y a trois personnes qui se présentent à lui. Les Écritures vont nous révéler que finalement c'est Dieu lui-même, ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation de Dieu qui vient se présenter, accompagné de deux anges, et ça vous pourrez voir ça dans Genèse 18.1 et Genèse 19.1, qui se présentent à lui. Donc ces trois personnes se présentent à Abraham. Et on sait que cette rencontre, elle a eu pour but premier d'annoncer à Abraham que à la prochaine saison, malgré son grand âge, malgré la stérilité de son épouse, sa femme porterait un enfant. Mais nous allons voir ce matin que ce n'était pas le seul but de cette rencontre, et c'est ce que nous allons regarder maintenant. Le premier point ce matin, c'est que prier, c'est mener les combats de Dieu. Prier, c'est mener les combats de Dieu. On commence la lecture, versets 16 et 17. Ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et dans le verset 20, nous lisons, « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté, et leur péché est énorme. » L'Éternel s'est présenté devant Abraham, car il avait une importante chose à lui confier, celle de la destruction des villes de Sodome et Gomorre. Alors, pourquoi la destruction de ces villes? On avait vu la dernière fois que ces villes étaient connues pour leur débauche, pour leur perversion et pour leur violence. Donc ce petit groupe de trois personnes, Dieu et ses anges, étaient en route pour aller détruire ces villes. Mais ce que nous voyons dans ce passage, c'est que l'Éternel n'a pas voulu partir avant de révéler à Abraham ce qu'il allait faire. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Premier culte, Mélodie nous a lu un petit extrait de Jean 15 qui lui a parlé, où Jésus justement parle et dit qu'il ne cache pas ses plans à ceux qu'il appelle ses amis. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nous voyons Dieu agir envers Abraham comme on agit avec un ami. Il va révéler son intention de détruire ces villes à cause de la grande méchanceté, à cause du péché et de la perversité qui y régnait. Mais le fait que Dieu révèle ses intentions n'a pas juste un but informatif. Le but véritable était qu'Abraham prenne une part active dans ce qui allait se passer, et ce, au travers de la prière. Dieu attend Abraham dans un dialogue, dans une communication avec lui. Dieu souhaite qu'Abraham intercède pour ses villes, afin que ceux qui doivent être sauvés le soient et évitent la colère qui va s'abattre, évitent le jugement de Dieu qui va s'abattre. Dieu a le désir d'associer Abraham à cette mission de sauvetage. Est-ce que vous croyez que Dieu a le désir d'associer l'Église pour une mission de sauvetage bien plus grande que juste celle du jugement de Dieu? Dieu veut associer Abraham à cette mission. Dieu était l'ami d'Abraham et il sait que Lot, son neveu, vit dans cette région avec sa famille. Et l'apôtre Pierre nous révèle dans sa deuxième épître, chapitre 2, verset 7, que Lot a été délivré du jugement de Sodome car il était juste aux yeux de Dieu. Dieu veut qu'Abraham prenne une part au combat au travers de l'intercession, afin que ces gens soient sauvés de la destruction. Nous voyons dans ce passage que les deux anges avaient déjà pris la route. Et Abraham ne pouvait pas se dépêcher de courir pour aller prévenir son neveu de ce qui allait arriver. Mais ce que nous savons, c'est qu'Abraham pouvait prier. Ce que nous savons, c'est qu'Abraham pouvait intercéder pour que la faveur de Dieu les sauve. Vous savez, il y a tellement de situations que nous connaissons autour de nous. Tellement de gens, tellement d'amis qui ont besoin de connaître et de bénéficier de l'intervention de Jésus dans leur vie. Peut-être des gens avec qui on a pu avoir déjà des contacts, des échanges, à qui on a pu témoigner. Mais aujourd'hui, ils sont dans une zone hors de notre portée, un peu comme Abraham. Ils étaient bien trop loin. Vous savez, ils étaient peut-être hors de portée. Lot était peut-être hors de portée d'Abraham. Mais ils n'étaient pas hors de portée de Dieu et de la prière. Et il y a tellement de gens avec qui on a pu être en contact. Aujourd'hui, on n'a peut-être plus de contact physique. Mais ils ne sont pas hors de portée de la prière et de l'intercession. Ils ne sont pas hors de portée de l'intervention de Dieu pour leur vie. Vous savez, le problème, c'est que bien souvent, on ne prie qu'en dernier recours, quand c'est déjà trop tard. Ma prière ce matin, c'est que la prière soit notre trousse de premier secours et non notre dernier recours. Que la prière soit notre premier secours et non notre dernier recours. Nous savons tous que Dieu nous attend dans cette intimité avec lui pour aller remporter des batailles. Mais bien souvent, on refuse de prendre ce temps. On ne prend pas le temps d'aller vers Dieu. Alors, on souligne toujours le fait que nous n'avons pas le temps. Mais ce qui est bizarre, c'est que souvent, on a le temps de se prendre la tête avec l'un ou l'autre. On a le temps de se brouiller. On a le temps de se rebeller. On a le temps de se plaindre. On a le temps de geindre. Mais on n'a pas le temps pour prier. Vous savez, une statistique qui a été faite il y a quelque temps qui disait qu'une personne passe en moyenne 3h30 devant la télévision chaque jour. Si on multiplie 3h30 fois 7 jours, ça fait à peu près 24 heures. C'est-à-dire qu'on passe une journée par semaine devant la télévision. Et on n'aurait pas le temps de prendre une heure par jour pour s'approcher du trône de la grâce, pour chercher la face de Dieu. Une journée par semaine devant la télé. Quand vous allumez la télé à 20h pour regarder les infos, que vous enchaînez les 25 minutes de pub, plus le début du film, plus la pause, plus la deuxième partie du film. Et voilà, vos 3h30, elles sont largement passées. On est prêt à passer une journée par semaine devant la télé, qui ne nous apporte pas grand-chose. Il y a certaines nouvelles qui sont intéressantes, mais qui ne viennent pas construire ma vie. On a besoin de se tenir dans la présence de Dieu. On a besoin de chercher la face de Dieu. Que nous puissions relever le challenge de cesser les batailles inutiles, afin de prendre part réellement au combat, et au combat de l'Éternel, au combat que Dieu porte, parce que nous avons notre part à faire, nous avons notre part à jouer dans la prière. Deuxième point ce matin, c'est que prier, c'est être de véritables pères et mères spirituels. Genèse 18-19, on poursuit la lecture. Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Il est intéressant dans ce passage de noter que Dieu justifie le fait qu'il communique ses plans à Abraham en soulignant qu'il a appelé ce dernier à être le chef spirituel de sa famille. Nous imaginons fort bien que Abraham était un véritable exemple pour ceux qui vivaient dans sa maison. D'ailleurs, c'est le rôle du patriarche à l'époque de veiller au bien-être socio-économique, au bien-être spirituel de l'ensemble de son foyer. Mais dans cette histoire, Lot n'était plus là. Il était parti depuis quelque temps. Et comme on l'a souligné avant, Abraham n'avait plus accès à son neveu. Cependant, en tant que chef spirituel, Abraham savait que la prière était efficace. Jacques nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alors, on le connaît par cœur, ce verset. On a besoin de le vivre. Parce que nous, on est des champions de réciter les versets. On peut les réciter même en grec et en hébreu pour certains. Mais l'important du passage, ce n'est pas de le connaître, c'est de le vivre. On est invité à vivre la prière efficace. Peut-être que certains, ce matin, vous êtes là Vous pensez peut-être à des enfants, à des amis auxquels vous ne pouvez plus exercer d'influence sur leur vie parce qu'ils sont peut-être trop éloignés. Peut-être que vous n'avez plus accès, peut-être que c'est une source de tristesse pour vous. Ce matin, qu'on puisse s'approcher de Dieu, simplement lui confier toutes ces personnes par la prière et croire que Dieu peut agir dans leur cœur et changer les circonstances. Nous ne pouvons pas changer les gens, mais Dieu le peut. On ne peut changer personne, je ne peux changer personne, mais Dieu a ce pouvoir. Dieu a ce pouvoir de transformer les vies. Notre rôle spirituel, c'est de prier. Notre rôle spirituel, c'est de nous tenir sur la brèche. On a été destiné à transmettre l'héritage de la foi à ceux qui nous entourent. Et cela passe aussi par la prière. Dieu entretient une relation particulière avec chacun d'entre nous pour un but précis, que nous puissions être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent en invoquant la faveur de Dieu sur leur vie. Est-ce que ce matin, l'Église a ce cœur de dire « Oui, Seigneur, je veux être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. » Est-ce que tu veux être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent? Ça commence par se tenir sur nos genoux. Ça commence par se tenir dans la présence de Dieu pour prier et intercéder pour ceux qui nous entourent. Mais prier, c'est aussi grandir dans notre relation avec Dieu. Genèse 18, 21, 22. Je pense que le PowerPoint, oui, ça suit. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi, alors c'est Dieu qui parle, s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu avait réellement besoin de descendre pour voir ce qui est en train de se passer à Sodome et Gomorrhe? Est-ce que Dieu avait besoin de venir voir? Non, bien sûr que non. Dieu sait exactement ce qui se passe n'importe où sur le globe. Et il connaît le secret de chacun des cœurs. Mais s'il est venu, c'est parce qu'il voulait donner l'opportunité à Abraham d'intervenir et d'interagir pour la délivrance de Lot. Il voulait lui donner accès, le fait de pouvoir intervenir par sa prière, par son intercession, pour pouvoir faire une différence. Dieu a révélé cette situation à Abraham pour qu'il puisse se tenir dans sa présence. Michel, il y a 3 semaines, nous a parlé de l'importance d'avoir son moment, d'avoir son lieu secret, d'avoir sa chaise pour se poser, ce temps d'intimité avec Dieu. Ce lieu d'intimité, ce matin, on pourrait l'appeler notre War Room. Qui a déjà vu le film War Room? Cette petite pièce où cette femme se tient pour porter ses combats, pour porter des combats pour sa famille, pour son foyer. C'est un lieu de victoire. On a besoin de ce lieu où on se tient dans la présence de Dieu pour aller remporter des batailles, pour aller remporter des combats et pouvoir faire la différence. On a besoin de notre petite War Room. Vous savez, lorsque Dieu nous met des choses à cœur, lorsque Dieu dépose des situations sur nos cœurs, ce n'est pas juste pour faire un constat de ce qui est inéluctable, mais c'est pour nous partager son cœur et nous faire agir. Le fait de prier pour ceux qui nous entourent nous aligne sur le cœur et la volonté de Dieu. Est-ce qu'on a envie d'être aligné sur la pensée de Dieu? Est-ce qu'on a à cœur d'être aligné sur le cœur de Dieu? Vous savez, prier, ça nous transforme. S'en remettre à Dieu, c'est aligner mes pensées sur les siennes. Vous savez, par nature, nos pensées, ce n'est pas celles de Dieu. Nos voix, ce n'est pas les siennes. Mais lorsqu'on décide de tourner notre cœur, nos yeux, notre regard vers lui, alors on s'aligne sur sa volonté. C'est ce que souligne Edward McKendrick Bounds, qui était un revivaliste, qui disait que la prière façonne l'âme à l'image de Dieu. La prière façonne l'âme à l'image de Dieu. Jackman dira aussi, la prière non seulement change les gens et les situations, mais elle change aussi ceux qui prient. En choisissant de se tenir dans la présence de Dieu, c'est la seule façon pour nous de pouvoir croître dans notre relation avec lui. Alors comment fait-on pour développer une amitié avec quelqu'un? C'est en passant du temps avec les gens. C'est en passant du temps avec eux. Qu'est-ce qu'on attend d'un ami? C'est qu'il passe du temps avec nous. Comment connaître une personne? c'est en entrant dans un dialogue, dans une communication avec lui, parlant et écoutant tour à tour, ou plutôt écoutant en premier et parlant tour à tour. J'ai toujours, c'est pourquoi Dieu nous a donné deux oreilles et un seul, une seule bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on parle. On a besoin d'être en communication, d'être en relation. Dieu souhaite nous parler par sa parole et par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut parler au milieu de nous. Dieu veut nous faire découvrir qui il est. Dieu veut nous faire découvrir comment il agit. Il veut que nous connaissions son cœur. Et la question ce matin, c'est sommes-nous prêts et disposés à le chercher? Sommes-nous prêts et disposés à chercher Dieu? Je crois que quand on cherche sincèrement la face de Dieu, quand on décide concrètement de mettre du temps à part pour nous tenir en sa présence. Alors, on ne parle pas des bonnes résolutions du 1er janvier, qu'on dirait, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais quand on décide concrètement de dire, maintenant, j'ai bloqué des créneaux, tel jour, ce sera mon temps pour Dieu, telle heure, ce sera mon temps pour Dieu. Quand on décide concrètement de juste chercher sa face, moi, je crois que Dieu va venir déposer des gens, Dieu va venir déposer des situations sur nos cœurs, afin que nous commencions à entrer en prière. Et je crois que lorsqu'on le fait, Dieu peut simplement nous conduire à prier et peut-être à pleurer sur des situations, mais peut-être aussi agir. Vous savez, un coup de téléphone, tout d'un coup, il faut que j'appelle, il faut que j'appelle telle personne. Ah, c'est vrai, tout d'un coup, il y a une personne à cœur, il faut que je lui rende visite, je vais l'appeler, je pense qu'il y a moyen d'avoir un contact. Combien de fois j'ai expérimenté dans ma vie, alors que j'étais poussé à prier pour des personnes, que le Seigneur me conduisait à passer un coup de fil, de prendre un temps de contact. Et combien les personnes disaient, mais c'était ce que j'avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin à ce moment-là de t'entendre. J'avais besoin d'entendre quelque chose qui vienne du cœur de Dieu. Vous savez, je crois que Dieu a encore des choses à nous dire. Je crois que Dieu veut nous parler par sa parole. Vous savez, sa parole, on appelle souvent la parole de Dieu. Et ce mot-là, on l'utilise tellement que ça dit, oui, ben, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'en prenant la Bible, on pourrait se dire, je vais m'adresser aujourd'hui au Dieu qui parle. Au Dieu qui parle par ce livre. Pas simplement je vais prendre la parole de Dieu, mais je vais aller chercher le Dieu qui parle. Celui qui veut encore me dire des choses, celui qui veut encore s'adresser à moi. Vous savez, de la même manière que Dieu est descendu auprès d'Abraham, moi je crois que Dieu se tient à la porte de notre cœur et qu'il frappe. Je crois que Dieu veut des temps particuliers avec chacun d'entre nous. Vous savez, on est peut-être derrière cette porte, Dieu frappe. Vous savez, c'est un peu comme les portes des supermarchés, des issues de secours. Il n'y a qu'une seule poignée, et la poignée est de notre côté. C'est une espèce de barre latérale qu'il faut pousser pour sortir en cas d'urgence. Dieu frappe de l'autre côté, mais c'est nous d'appuyer sur la barre centrale pour le laisser entrer. Dieu vous éteint. Dieu nous attend au tournant. Mais est-ce que je vais ouvrir la porte de mon cœur? Est-ce que je vais ouvrir la porte d'un temps particulier pour la présence de Dieu? Un cœur à cœur avec Dieu. Prier, c'est aussi développer notre humilité, notre compassion et notre persévérance. On va lire jusqu'à la fin de 23 à 32. Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5 pour 5? Détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas. Si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne le détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla alors qu'il lui fit de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Vous Cette prière d'Abraham est pour nous un modèle d'humilité, de compassion et de persévérance. Moi, ce que je note dans ce passage, c'est qu'Abraham ne cherche pas à manipuler Dieu de manière égoïste. J'aime, il dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Abraham est conscient de sa condition et il est conscient de qui Dieu est. Il est bien conscient de qui il s'adresse. Mais Abraham vient avec humilité devant Dieu. Il reconnaît sa petitesse face à la majesté, face à la gloire de Dieu, on l'a chanté ce matin. Il s'approche de Dieu en proclamant sa confiance dans la bonté de Dieu qui ne condamnerait pas le juste avec le méchant. Il se tient dans la présence de Dieu avec compassion pour un monde coupable. Il demande à Dieu d'épargner des villes méchantes si dix justes y étaient. Nous voyons que la compassion qu'Abraham manifeste envers une ville, elle est quand même exceptionnelle. Dans cette ville, on acceptait les viols collectifs. C'est une ville au comportement sexuel déviant. Vous pouvez lire ça au chapitre 19, 4 à 9. On sait aussi que l'inceste semblait être également pratiqué quand on voit l'attitude des filles de Lot plus tard, toujours dans le chapitre 19. C'est une leçon pour nous, Église du 21e siècle. Nous qui avons encore la grâce en France pour l'instant de ne pas vivre dans ce type de société. Cela doit nous pousser à nous tenir sur nos genoux et intercéder pour que des gens soient touchés par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à prier et intercéder pour notre monde coupable et pour ceux qui gouvernent. C'est ce que Paul nous enseigne dans 1 Timothée 2, 1-2. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Vous avez remarqué, il se répète, hein, on y va, il faut prier. Il ne dit pas juste une fois, il faut prier, puis on enchaîne. Non. Des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ce passage nous rappelle que nous devons prier pour tous les hommes afin qu'ils soient sauvés, de prier pour tous les hommes afin qu'ils puissent rencontrer Jésus, se repentir et changer de vie. De la même manière que Dieu a su nous trouver dans sa grâce, de la même manière que Dieu a su nous sauver dans sa grâce. Alfred Kuhn, décrivant l'intercession d'Abraham, il affirme qu'en priant pour Sodome, Abraham entre pleinement dans le sens de sa vocation et de la miséricorde qu'il a atteint lui le premier. La mission de l'Église, c'est d'exercer la miséricorde. On pourrait dire que c'est littéralement tendre une corde dans la misère. C'est le rôle de l'Église de tendre une corde pour la misère humaine, une corde qui conduit au sauveur. Jésus a donné sa vie pour sauver le monde, pas pour juger. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Nous devons nous tenir dans l'intercession, car il y a un jour où le jugement arrive. Lorsque le passage souligne que Dieu va descendre voir ce qui se passe à Sodome, le passage nous montre que Dieu ne châtie pas à l'aveugle et injustement, mais toujours en connaissance de cause et pour de bonnes raisons. Jésus va même comparer la fin des temps à ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre. On voit ça dans l'évangile de Luc, chapitre 17, 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous savez quoi? Prier pour tous les hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire prier pour tous les hommes. Ça veut dire prier pour nos ennemis. Ça veut dire prier pour les politiciens, même ceux qui ne nous plaisent pas. Prier pour ceux qui prennent des décisions, qui votent des lois auxquelles nous ne sommes pas d'accord. C'est prier pour des gens qui ne sont pas très appréciables. C'est prier pour les délinquants. En tant que policier, quand le Seigneur me parlait à propos de ce passage, c'était aussi prier pour les racailles. Ceux qu'on peut appeler racailles. Le Seigneur me disait, tu dois prier pour eux. Ce n'est pas tes ennemis, c'est des brebis sans berger. C'est des brebis qui sont perdues. On a besoin de manifester le cœur de Dieu dans nos temps de prière et d'intercession. Si des situations nous assistent, prions. Nous attristent, pardon, prions. Si des situations nous blessent, prions. Si des situations nous mettent en colère, prions. Si des situations et des gens semblent perdus autour de nous, prions. Nous avons besoin de nous tenir devant le roi des rois pour qu'il fasse la différence dans les vies. Abraham a persévéré dans sa prière pour que Dieu épargne ses vides. Il n'a pas juste prié une fois. On voit son insistance. À cette qu'une dit six fois, il est revenu à la charge et Dieu n'a pas refusé sa demande. Six fois, il est revenu à la charge et Dieu n'a pas refusé sa demande. Alors que Dieu avait décidé de tout simplement détruire Sodome et Gomorrhe, nous voyons que par l'intercession et la persévérance d'Abraham, il était prêt à épargner la ville si 50, puis 40, puis 30, puis 20, et finalement 10 justes étaient au milieu de cette ville. S'il y avait eu ces 10 justes, Dieu aurait épargné cette ville. Malheureusement, nous savons que ces 10 justes n'y étaient pas. Cette prière audacieuse d'Abraham nous montre quelle force émane de l'intercession. Cette dernière a la puissance de changer les choses lorsqu'elle est centrée et qu'elle est dépendante sur l'intervention de Dieu. Est-ce que vous croyez que prier, ça peut faire mouvoir le bras de Dieu? Prier, ça peut mettre le bras de Dieu en action. On a besoin de se tenir sur nos genoux. Jackman dira, les intercessions successives d'Abraham pour le salut de Sodome et Gomorrhe nous fournissent un exemple de la nécessité de la prière insistante et des avantages qui en découlent. La prière change les choses. La prière débloque des situations. Grâce à l'intercession d'Abraham, l'histoire nous apprendra que seul Lot et ses deux filles seront épargnées. Et nous savons aussi que ses gendres, leurs épouses, ses filles et sa femme ne vont pas échapper à ce jugement juste de Dieu, car ils étaient attirés par le plaisir de cette ville-là. Pour arriver à la conclusion, j'invite le double ange à s'approcher. Le dernier point ce matin, c'est que Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent sur la brèche, qui se tiennent sur leurs genoux pour s'approcher du roi des rois et dire « Seigneur, interviens. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, change les vies. » Le monde devient de plus en plus mûr pour le jugement. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent sur la brèche, intercèdent dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance pour les perdus. Vous savez, si on prend conscience du rôle que Dieu nous a confié, si nous nous sentons concernés par tout ce qui se passe autour de nous, par notre société qui s'effondre, par le salut de nos enfants, par le salut de nos proches, alors nous allons nous tenir sur nos genoux. Et que ce soit de manière collective quand l'Église est rassemblée, que ce soit dans nos petits groupes la semaine, que ce soit dans nos temps personnels, mais aussi dans nos temps de couple, dans nos temps de famille. Arrêtons de justifier notre manque d'assiduité dans la présence de Dieu par un manque de temps, parce qu'on a tellement de temps pour faire plein d'autres choses qui sont inutiles. Arrêtons de justifier toujours notre paresse spirituelle, frères et sœurs. Et quand je dis ça, je ne vous dis pas ça à vous, je dis ça à moi. Arrêtons de justifier notre paresse spirituelle. C'est le temps de se tenir devant le trône de la grâce. C'est le temps de pleurer devant Jésus pour qu'il intervienne pour notre nation, pour nos amis, pour ceux qui nous entourent, pour notre monde. L'Église a besoin de comprendre l'enjeu spirituel autour d'elle. J'ai besoin de comprendre l'enjeu spirituel qui prend place autour de moi. Et ça, ça doit me pousser à me mettre à genoux. Reinhard Bonnke disait que la prière, c'est comme un détonateur qui fait exploser la bombe. Et pas dans le côté négatif d'une bombe, mais de ce qui peut produire un changement dans la vie des gens. La prière est un détonateur qui déclenche l'intervention de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous réveille ce matin, qu'il nous vienne en aide. Ma prière ce matin pour l'épi, pour moi-même, c'est que c'est Jésus, réveille-nous. C'est Jésus, secoue-nous. On a besoin de prendre conscience de ce qui est en train de prendre place autour de nous. De Chroniques 7, 14 nous dit, si mon peuple s'humilie, sur mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Pendant que la musique commence, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour notre nation, qu'on puisse prier pour la France. Vous savez, J'ai regardé un peu sur Facebook, là, tout le monde, c'est, alors, il y en a qui étaient contents, d'autres qui n'étaient pas contents de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et vous savez, c'est bien beau d'être content ou pas content, ce qui est important, c'est de prier. Ce qui est important, c'est de prier. Vous savez, il y a des échéances qui approchent sur notre pays dans quelques mois. Je pense que certains ont du coup de la primaire. Des temps d'élection arrivent. Et ce que le peuple de Dieu a besoin, c'est de prier pour ce pays, afin que ce qui est voté ou ce qui est dit soit en harmonie avec ce que Dieu veut faire. Moi, je veux prier pour un temps où Dieu va amener un réveil sur notre pays de France. Peut-être un temps où des paralytiques vont se lever dans le nom de Jésus, où des gens vont être guéris, où des gens vont être libérés. Je veux croire un temps de Dieu avant les temps difficiles qui sont annoncés. Je veux croire un temps, je veux croire qu'on est dans le temps où il est encore jour et que l'Église a son rôle à jouer. Je veux croire un temps où l'Église se tient devant Dieu et dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Peut-être pour être conduit à aller partout le monde, comme notre sœur nous l'a partagé. Et peut-être pour d'autres, c'est d'agir concrètement. D'écouter ce que Dieu a mis sur ton cœur pour agir concrètement ici pour la ville de Strasbourg, peu importe l'endroit où on est placé. Mais pour ça, on a besoin de se tenir sur nos genoux. On peut élever la voix tous ensemble ce matin, prier pour notre pays, prier peut-être pour les gens de notre famille à qui on a pu accéder, ou des amis. Mais on veut croire que la prière, que les gens ne sont pas hors de portée de l'intervention de Dieu. Amen. On élève la voix tous ensemble ce matin, mais on y va avec le cœur ce matin. On est devant le roi des rois. On est dans la présence de Jésus. Il veut faire la différence. Et ça passe par nous. Alléluia. Seigneur, on te prie pour notre nation ce matin. Nous voulons prier pour la France ce matin. Conduis toutes choses, Seigneur. Bénis nos politiciens. Bénis le gouvernement actuel, Seigneur. Je te prie de les conduire. Je te prie de venir les chercher. Je te prie de venir les interpeller. Tu es celui qui incline le cœur des rois. Tu es celui à qui rien n'est impossible. Ce matin, on veut bénir notre pays. On veut bénir les politiciens de notre ville ici à Strasbourg. On veut bénir l'Alsace ce matin. Seigneur, on te prie pour un temps de Dieu. On te prie pour une intervention. Viens opérer sur notre nation. Viens, Seigneur, libérer des captifs dans notre pays. Viens libérer, Seigneur, des vies complètement liées, Seigneur, sur notre nation. Nous voulons croire et proclamer un temps de Dieu sur notre pays. Nous voulons croire que tu n'en as pas fini avec notre nation. Seigneur, on te prie pour un réveil sur notre nation, un réveil à tous les étages, que ce soit les gens dans leur région jusqu'aux plus hautes sphères de notre pays. On te prie pour que des ministères se lèvent aussi, Seigneur, pour être une porte-parole de qui tu es auprès de nos gouvernants, Seigneur. On te prie des temps de ta main, Seigneur. Nous croyons la puissance de la prière. Nous croyons, Seigneur, que tu vas encore poser ton bras au milieu de nous. Seigneur, je te prie pour peut-être des fils et des filles, pour certains de tes frères ce matin qui sont tellement éloignés de toi, des sources de tristesse pour les uns et les autres. On veut croire que ces enfants ne sont pas hors de ta portée. On veut croire un retour de l'homme au milieu de nous. Des jeunes gens qui reviennent au cœur du peuple. Seigneur, on te prie pour nos familles. On te prie peut-être pour un mari, pour une épouse ce matin au milieu de nous. Seigneur, interviens. Le temps de Dieu n'est pas fini. On veut le proclamer. Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu, Seigneur, qui honore la foi. Nous attendons à toi, Père. Interviens pour notre nation. Nous crions à toi, Jésus. À toi la gloire. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia.